Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h46, le petit déjeuner politique, c'est Boris Vallot, député PS des Landes, responsable du projet et porte-parole PS et auteur du livre Un esprit de résistance aux éditions Flammarion.
Oui, bonjour, bonjour Boris Vallot.
Bonjour.
On parlera de votre livre dans un instant. Comment vous réagissez, vous, à tous les actes de violence dans certains quartiers, des attaques de commissariat, le policier d'Avignon tué lors du contrôle sur un point de deal la semaine dernière?
Bah, je vais dire comme tous les Françaises et tous les Français, d'abord avec une grande colère. Une grande colère face à ces actes de violence, à l'endroit de policiers, de gendarmes aussi, mais on pourrait, dans d'autres circonstances, parler des sapeurs-pompiers. Parce que ce qui s'est passé nous rappelle que ce sont des métiers dangereux,
ouais.
Que ce sont des hommes et des femmes qui, au quotidien, mettent leur vie en jeu pour protéger la nôtre. Vous savez, moi, je connais bien les policiers et les gendarmes. Dans ma carrière professionnelle, j'ai eu l'occasion de travailler... avec
sous préfet
eux.
Et puis dans
absolument.
Le conseil
j'ai
général
eu l'occasion de travailler avec eux, de faire des tournées avec la BAC,
ouais.
De suivre la gendarmerie dans des contrôles routiers. C'est un métier dur, c'est un métier dur. Et on a aujourd'hui des policiers et des gendarmes qui ont besoin de sentir que la population les soutient et derrière eux.
Mais Boris Vallot, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impuissance? Le constat venait de vos amis socialistes, hein, Gérard Collomb. On vit côte à côte, je crains que demain ce sera face à face. François Hollande, lui-même qui reconnaissait qu'il y avait une sécession des territoires, une partition, disait-il précisément, des territoires.
Je vais vous répondre.
Oui. Vous avez travaillé comme secrétaire général adjoint à l'Élysée, donc vous étiez
d'abord,
en fait.
D'abord, il faut effectivement cesser d'en demeurer au constat. Et que la réponse, elle est sur le terrain sécuritaire, sur le terrain de la fermeté, de la répression de la délinquance, mais elle est aussi sur le terrain social. Et évidemment, moi, c'est une question qui m'importe. Quand, en effet, vous avez des quartiers, mais aussi des villes rurales qui cumulent les difficultés, qui ont un sentiment d'abandon. Moi, je vois la blessure que c'est quand vous avez une classe qui ferme, quand vous avez une trésorerie qui ferme, quand vous avez un bureau de poste qui ferme. Ce sentiment d'abandon, de réclusion. Eh ben, il faut répondre à ça. Quand vous voyez que dans un certain nombre d'écoles, bah, vous avez tous ceux pour qui la vie est facile. Et dans d'autres, pour tous ceux pour qui la vie est difficile, et où la promesse d'élévation par l'école, d'ascension sociale, d'égalité est démentie par les faits. Ben, il faut de la mixité sociale à l'école. On l'a proposé en 2015-2016. Il y avait eu près d'une centaine d'expérimentations partout dans le territoire national pour justement dire ben, si on grandit ensemble, et ben, on vivra ensemble. Et ce sont des combats qu'il faut...
Il
ne faut jamais se départir.
Non, mais
je vous donne juste un autre exemple.
Oui.
Vous avez un certain nombre de villes qui ne font aucun effort pour respecter la mixité sociale dans l'habitat. Mais la somme de tous ceux qui ne respectent pas cette loi, qui est une loi ancienne, la loi SRU maintenant, c'est des centaines de milliers de logements. Donc on a besoin de ça, il y a besoin de cette réponse en termes de cohésion sociale, en termes de justice, donner des perspectives, être aux côtés de ceux qui travaillent, côté de ceux qui n'ont que leur force de travail d'ailleurs pour vivre, qui ont besoin d'en vivre dignement, d'en vivre correctement, de ne pas être abîmés par leur travail. Et puis il y a la question d'être aux côtés des policiers et des gendarmes. Il y a la réponse pénale, mais ça n'est pas que ça. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas...
La réponse pénale, justement, est-ce que ça n'est pas quand même un aspect très important qu'on a un peu négligé?
C'est ce que
dénoncent les policiers. Ils ont été reçus hier soir par Jean Castex. Ils espèrent qu'il pourrait y avoir derrière des condamnations plus fermes.
Mais
quoi.
Des condamnations très fermes et des circonstances aggravantes ou des peines durcies quand il s'agit de crimes ou de délits à l'encontre des représentants de la force publique, ça existe déjà. Moi, je crois que là où il faut faire attention, c'est pas la police contre la justice. Et d'ailleurs, je regrette que la justice n'ait pas été plus investie, plus associée au Beauvau de la sécurité qui a été lancé par le ministre de l'Intérieur. Il faut des réponses sur le terrain qu'on a décrit tout à l'heure. Il en faut aussi dans les effectifs, les équipements, les moyens d'intervention des policiers. Dans le dernier quinquennat, il y a près de 10 000 postes de policiers et de gendarmes qui ont été créés. Le gouvernement en annonce 10 000 pour la fin du quinquennat. Je dois vous dire que pour l'instant, nous n'y sommes pas. Et pour sécuriser des interventions, il faut aussi qu'il y ait des moyens, qu'il y ait cette police, cette gendarmerie de proximité. Vous savez, je suis allé il y a une quinzaine de jours à la rencontre des gendarmes dont je dépends, j'allais dire, dans les Landes. Des gendarmes qui sont investis, que la population connaît, qui sont très présents, mais dont je suis obligé de faire aussi le constat qu'ils sont sur une très grande circonscription et quand ils sont en intervention à un endroit, s'il se passe quelque chose de grave ailleurs, ils peuvent être un peu courts en effectif ou intervenir dans des circonstances où ce n'est pas très sécurisé. Donc ça, il faut l'avoir en tête. C'est un métier difficile. La police et la gendarmerie doivent être aidés, accompagnés, mais que la réponse est celle de la société dans son ensemble, et y compris dans ces fractures qui existent, dont il ne faut jamais renoncer.
Du délitement, vous l'évoquez d'ailleurs dans votre livre. Vous dites qu'il y a du délitement dans la société. Quelque part, sans rejoindre et sans faire le raccourci, la tribune des militaires ou des retraités où on parle d'un certain délitement, vous l'évoquez aussi dans votre livre.
Mais je le dis en disant, finalement, cette pandémie qui a été terrible, dans cette pandémie, on s'est manqué les uns aux autres. Nos familles nous ont manqué, nos amis nous ont manqué, nos collègues nous ont manqué. Retrouvons-nous. Ne nous contentons pas d'avoir applaudi à 20h les ouvriers de l'agroalimentaire, les éboueurs, les caissières. Après la crise, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut encore admettre que le patron d'une grande enseigne de la grande distribution gagne 300 fois ce que gagne une caissière? On a besoin de cette reconnaissance, on a besoin, de vivre dignement. C'est possible. Moi, le message que je mets face à ces fractures, c'est soit on reste les mains dans les poches et puis on se dit c'est comme ça, soit on se dit mais quand même dans ce pays, quelle richesse. Il y a des vies très dures, mais il y a des vies, surtout des gens très courageux. C'est ceux que moi je vois toutes les semaines dans les Landes qui viennent me voir parce qu'ils ont un problème de logement, parce qu'ils ont un problème d'emploi, parce qu'ils ont un problème de mobilité, parfois tout ça à la fois. Eh bien oui, on est capable de faire des choses. On est quand même encore un pays riche avec de la solidarité. Eh bien on peut surmonter bien des épreuves.
Boris Vallaud, à qui s'adresse aujourd'hui le Parti Socialiste? Eh bien, à qui s'adresse-t-il? Parce qu'on a l'impression que finalement l'électorat populaire, il va au Rassemblement National ou à la France Insoumise,
moi,
mais il ne va pas au PS.
Je ne m'y résous pas. Ouais. Et ce que j'essaye de faire, je suis un jeune élu, c'est la première fois que je suis élu. Je suis aussi un jeune militant politique, même si j'étais comme haut fonctionnaire très investi et très engagé, toujours au service du bien commun. J'étais dans la préfectorale, sur le terrain, dans des territoires ruraux, dans des départements qui connaissaient leurs difficultés. Aujourd'hui, il faut être du côté de ceux qui subissent toute la vie dure. Je le dis, toutes ces classes populaires, tous ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, qui parfois n'ont pas même de travail. C'est à côté de
travail
cela
et qui veulent de la sécurité. Hein. C'est ce qu'ils disent
de plus en
plus. Ils
veulent de la sécurité sur tous les plans. Ils veulent pouvoir vivre effectivement dans la tranquillité publique, mais ils veulent aussi être sécurisés dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, quand vous êtes un jeune, vous rentrez sur le marché du travail, c'est un saut dans le vide. Vous perdez votre emploi, c'est un saut dans le vide. Vous avez besoin de changer de métier parce qu'il y a des mutations économiques, il y a la crise environnementale. C'est un saut dans le vide. Eh bien, il faut resécuriser tout ça. C'est un nouveau modèle social qui sécurise ses parcours professionnels, qui apprivoise le hasard. Vous savez, moi, je dis, il ne faut pas se contenter de dire on va sortir du diesel ou du véhicule thermique. On raconte quoi aux ouvriers des fonderies du Poitou, de Bosch Industries ou Saint-Jean? Il faut leur dire, c'est avec les ouvriers d'aujourd'hui qu'on va construire l'industrie de demain. Par la formation, par des contrats de transition, vous pourrez garder votre salaire, mais vous former parce que vous savez faire des choses. Voilà. Moi, je l'ai vu dans mon boulot quand j'étais à Bercy, qu'il y avait des entreprises qui se cassaient la gueule et qu'il y avait des ouvriers, des ouvrières qui venaient et disaient « Mais nous, on ne sait rien faire d'autre. » Bah si, vous savez faire plein de trucs. Parce que vous l'avez montré dans votre entreprise, parfois pendant 30 ans.
Mais alors, est-ce que vous pouvez vous différencier, puisque vous avez évoqué là, justement la transition un peu écologique aussi avec les nouveaux modèles. En quoi vous différenciez des écologistes, des verts?
Écoutez, je pense qu'on a des causes communes. Et j'espère que d'ailleurs, ça nous rassemble au-delà des socialistes et des écologistes. Moi, je dis, la question environnementale, c'est un levier de transformation sociale considérable. Moi, je plaide pour ce que j'appelle l'écologie des inégalités. C'est que le bilan carbone des 1% les plus riches dans le monde est équivalent à 50% les plus pauvres. Qui doit d'abord faire des efforts? Les 1%. Je dis, c'est une écologie qui peut desserrer la ceinture. Parce que pour certains, c'est mieux se loger, mieux se nourrir, mieux se déplacer. Regardez la question de la rénovation thermique. Il y a quand même 12 millions de Français qui vivent dans des passoires.
Bon, alors ce qui veut dire qu'il doit y avoir une union avec les écologistes pour la présidentielle de 2022?
C'est-à-dire qu'il faut essayer de construire l'union à gauche la plus large possible, en se disant pour qui on se bat, pour les plus modestes. Moi je dis pour ceux qui ont la vie dure. Pardon, il y a un côté un peu répétitif, mais pour ceux qui ont des vies parfois invivables, c'est pour eux qu'on se bat. C'est pour eux qu'on doit se battre. Et ceux qui nous disent, mais vous l'avez oublié, moi, comme jeune élu, je m'en souviens et je le vois tous les jours. Et je me bats concrètement parce que on intervient auprès de la CAF, face parfois à un golem administratif auquel on ne comprend rien. Il faut aider, il faut simplifier tout ça aussi.
Un mot sur la sortie de crise et en même temps ce texte qui doit être voté en fait aussi à l'Assemblée pour savoir s'il y a une sortie de crise ou pas. Vous êtes favorable ou pas?
Bah, à la sortie de crise, tout le monde est favorable à la sortie de crise.
Bien sûr, la sortie de crise, oui, bien sûr.
J'espère. Vous évoquiez tout à l'heure la réouverture des terrasses des restaurateurs. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Ce que l'on dit, nous, ce que l'on regrette d'abord, c'est l'espèce de divorce entre le conseil scientifique et le gouvernement. C'est-à-dire que les annonces du gouvernement se sont faites sans consultation ni avant ni après du conseil scientifique qui a émis un avis qui alerte. Qui alerte pourquoi ? Parce que les chiffres sur lesquels on se fonde pour sortir du confinement aujourd'hui, c'est ceux qui nous ont conduits à nous confiner au mois de novembre, décembre. Donc on a besoin de compréhension. Ensuite, on a besoin de contrôle régulier de ce qui se passe, de clarté dans les décisions. Pour l'instant, cette clarté, on ne l'a pas. On nous dit les grands événements, mais il n'y a pas de chiffres dans la loi.
On nous dit le pass sanitaire, ça peut être une bonne chose pour les grands événements.
Bah, dès lors que les choses sont précisées, mais vous voyez, dans le projet de loi tel qu'il nous est soumis, on ne sait pas si c'est du plein air ou si ce sont des salles fermées. Il n'y a pas le chiffre de 1000 qui est évoqué par ailleurs par le Premier ministre. D'ailleurs, on voit bien que ça va être un peu à la carte, puisque, et peut-être tant mieux, le Tour de France ne sera pas concerné par ce pass sanitaire. On a besoin de clarté, de compréhension, bah, pour que les uns et les autres ils sachent quoi faire. Quand on est organisateur d'événements culturels ou sportifs, on a quand même besoin de comprendre les règles du jeu.
Ouais, allez, dernière question avec Cécile Ménibus.
Oui, sur l'union de la gauche, Bernard Cazeneuve estime que cette union ne peut pas se faire avec, je cite, la gauche de la radicalité et la complaisance à l'égard de certaines formes de violence. Est-ce qu'il faut combattre Jean-Luc Mélenchon, pour reprendre ses termes ?
Et moi, vous savez, je suis très clair sur ce que je défends, sur ce que je suis. Je suis socialiste. Voilà. Je me bagarre contre l'extrême droite, contre le repli sur soi, contre l'égoïsme, contre le libéralisme et la mondialisation qui n'a pas de règles et qui fait des dégâts toujours chez les mêmes. Voilà, c'est ça ma règle. Mmh. Et dans ce cadre-là, eh bien moi je ne renonce jamais à convaincre, y compris les gens avec lesquels j'ai des désaccords, à la France insoumise ou ailleurs. Bah oui, enfin, je veux dire, il faut défendre ses idées. Enfin, moi, tous les jours, je me lève et je me dis, est-ce que ce que je fais est juste ? Voilà. Et on a des désaccords, eh ben, on ne renonce pas d'une certaine manière à nos désaccords, mais on ne renonce pas à convaincre.
Oui. Merci Boris Vallot, député socialiste des Landes et auteur aussi de ce livre qui vient de sortir chez Flammarion, Un esprit de résistance.
Dans toutes les bonnes librairies.
Voilà.
Restez avec nous. Tout de suite, le journal de 8h.